le Vukler Prince pour son exposé. Et je pense qu'il y a aussi des connexions avec l'analyse d'hier soir. Certains d'entre vous devaient y être à la conférence d'hier soir. Est-ce qu'on a annoncé que la table ronde serait à 3 heures et pas 6?
Oui.
Oui, on a annoncé. Non, moi je l'ai dit, mais hier soir.
Non, hier soir.
Bon, il va y avoir encore des... Donc, bref, pas grave. Oui, mais bon, très bien. Alors, voulez-vous... j'ai encore quelques textes, là, hein, pour ceux qui n'en ont pas. Voulez-vous me rappeler, donc, à quel moment du chapitre 3 nous sommes arrivés? Attendez, que je retrouve mon texte. Bien, alors là, nous avons lu une référence qui nous décrit le cheminement d'ascension, d'élévation, de la capacité de connaissance de la vérité à travers la Torah, et avec tous les préalables des vertus morales nécessaires pour qu'il y ait honnêteté, et la vertu principale étant celle d'humilité, et avec en contrepoint une analyse de l'orgueil qui s'attache comme une sorte de risque fatal à cette aventure de l'intelligence se découvrant capable de connaissance, de connaissance de ce qui est exigé dans l'ordre de l'absolu. Bon, vous avez suivi dans les différentes communications du soir toute la problématique des équations personnelles, des différentes approches qui ont été présentées de ce problème. Je crois qu'on récapitulera ça avec beaucoup d'intérêt et de richesse, je pense, dimanche après-midi. Je me propose d'ailleurs de demander à l'administration de tenter de vous faire imprimer tout ça, parce qu'il me semble qu'il y a eu un homer, enfin une matière assez importante, et c'est dommage qu'elle se... ça va être un travail considérable pour mettre ça en forme, et espérons qu'on y arrivera. Pardon ? On fera appel au service des serviteurs. Okay. Hein? Oui, oui. Bon, je pense surtout au budget d'édition.
Il a lancé des dimanches pour avoir des souscriptions tout de suite. Il y aura du monde et il y a des gens qui souscriront.
C'est pas une mauvaise idée. Mais vous parlez du verset « Achète la sagesse et ne la vend pas ». Bien. Alors là, nous avons pris cette... nous avons suivi cet itinéraire de cette aventure, donc. Et lorsque, au sommet de cette élévation intellectuelle, apparaît son risque de l'orgueil, alors il y a chute. Et vous rappelez que la Gemara avait prévu qu'il peut y avoir repentir, mais je crois qu'on peut dire par expérience que ce repentir est très difficile lorsque c'est cette expérience d'orgueil en particulier qui apparaît. Vous connaissez en particulier l'aventure racontée par la Gemara de celui qu'on a appelé Acher, l'autre, Elisha ben Abouya, qui est resté typique, enfin, exemplaire, mais souvent la Mishnah déjà, la Gemara surtout, fait allusion à Acherim, les autres, et les autres sont très nombreux. Et ça me souvenir d'une expression traditionnelle que je vais un peu ridouchiser, si j'ose dire. Vous comprenez le terme, okay? On a un petit renouvellement de sens. On a l'habitude de citer une expression talmudique pour dire à notre corps défendant, à cause de nos fautes, on dit « ba'avonot arabim », à cause de nos fautes nombreuses. Vous entendez en hébreu, « ba'avonot arabim ». Les acherim sont très rabim, sont très, très nombreux. Je veux dire effectivement que l'expérience montre que l'aveu d'une déviation par faute d'orgueil est très difficile. C'est le fond même du problème de l'aveu. L'orgueil empêche l'aveu. Or, le repentir n'est authentique que s'il est capable d'aveu. Et il y a une, si vous voulez, le cercle se referme dans cette analyse. Et pourquoi le repentir est difficile? Parce que précisément l'orgueil empêche et que la faute essentielle, en tout cas dans ce sujet, c'est la faute d'orgueil. Bien. Alors je termine avec cette parenthèse concernant l'aventure de Acher. Vous pouvez prendre cela comme exemple, l'enseignement sur Elisha ben Avouya. Et quel que soit le respect que Rabbi Meir, qui avait été son disciple, a gardé pour lui, un respect qui va jusqu'à une complaisance affectueuse de protection, il n'en reste pas moins que Rabbi Meir a la lucidité de dire que Acher, c'est l'autre. L'autre manière de penser est, par rapport à la vérité, toute autre manière de penser est fausse. Pour ça, nous allons étudier un texte à ce sujet d'ailleurs. Bien, vous vouliez poser une question? Oui. Vous rappelez ce que vous avez vu, je crois, au deuxième cours. Je vous ai cité aussi corollairement Maïmonide. C'est qu'il faut une catharsis des passions pour pouvoir être apte à cette humilité de simplicité dont parle le Maharal et qui permet l'accès clair à la recherche de la vérité. C'est-à-dire les opinions, dans le sens cartésien, viennent toujours des passions. C'est-à-dire la motivation des opinions viennent des passions. Je me propose d'ailleurs dimanche après-midi de citer une Mishnah du Pirkei Avot dans l'explication du Rav Nachman de Breslav, mais je crois que ce n'est pas une anticipation de l'expliquer sommairement déjà ce matin. Et c'est plus simple lorsque nous sommes peu nombreux pour étudier vraiment. La Mishnah dit ceci: Kol yamai gadalti ben hachamim, tous mes jours, j'ai entendu tous les jours de ma vie, une expression difficile. Kol yamai, tous les jours de ma vie, disons, j'ai grandi parmi les sages. Velo matzati la gufto mishtika. Et je n'ai pas trouvé de meilleure chose pour le corps que le silence. Et certains kirsaot, qu'on dit en français, certaines sources disent elashtika ou rakshtika. D'autres disent mishtika. Mais l'idée finalement est assez proche. Et Rav Nachman de Breslav pose la question, d'ailleurs, cette question est posée par tous les commentateurs. Qu'est-ce qui m'a fait le corps dans cette histoire, okay? Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages et je n'ai trouvé pour le corps rien de meilleur que le silence. Il aurait suffi de dire et je n'ai trouvé rien de meilleur que le silence et on comprend qu'il s'agit de la sagesse. Il y a un autre enseignement d'autre part, Shtika Zahav, le silence est d'or pour la sagesse. Okay? Et on a finalement le droit de parler que pour dire ça, qu'il vaut mieux se taire. Bien. Et, une minute, j'ai juste posé la question après. Et alors, je crois que je vais expliquer peut-être un peu plus en détail dimanche, mais il y a dans la Gemara l'enseignement suivant. Choshed b'ksherim loke begufo. Celui qui suspecte des gens ksherim, intègres, est frappé dans son corps. Et le Rav Nachman de Breslav explique cela comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire entre les sages? Eh bien, entre les sages, il y a la controverse. Ben Hachamim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'espace de controverse. Et c'est dans l'expérience de l'espace de controverse entre les sages que j'ai compris qu'il n'y avait rien de mieux que le silence. Pour le corps, alors la citation de la Gemara que je viens de vous rappeler, elle est claire, quand même, parce que les motivations de la controverse viennent des passions du corps, et qu'il faut faire taire le corps. C'est-à-dire ce silence, c'est le silence du corps, ce n'est pas le silence de l'esprit. Ce n'est pas suffisamment clair, quand même. Bon, qu'est-ce que vous lui demandez?
Acher, c'est un nom qui lui a été donné par la prostituée qui t'a dit. C'est pas lui qui s'est revendiqué.
Non, en général, on l'a appelé.
Puisqu'on le reconnaît comme autre,
je ne me souviens pas exactement de la source de ce que vous dites, mais tout le monde l'a appelé l'autre. Ça veut dire, vous savez, c'est très synonyme avec mine, hérétique, une manière d'être autre. Okay? Je pourrais le formuler de la manière suivante. En fond, l'hérétique, c'est l'autre croyant. Okay? Mais, sans prendre trop de temps, vous savez, nous avons étudié encore cette semaine ce verset où Dieu dit à Moïse au haut de la montagne du Sinaï, quand il y a eu la faute du Vaudor en bas, l'air est raide, va, descend. Il y a un commentaire très très fin qui dit, au fond, la grande différence entre la vérité et l'erreur, c'est le dalet et le resh. À la fin du mot de Echad, il y a le Dalet. À la fin du mot de Acher, il y a le Resh. Et ce sont deux lettres qui se ressemblent beaucoup. On pourrait se tromper en les écrivant et prendre un Dalet pour un Resh pour un Dalet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire El Echad, Hashem Echad, Dieu un? Elohim Acherim, les autres dieux, le dieu autre. Vous voyez que le glissement, le passage entre l'unité de la vérité et quoi que ce soit d'autre, c'est pas difficile. Est-ce que c'est clair, Ken? Et bon, le commentaire se déploie beaucoup, ça va jusqu'à Spinoza d'ailleurs, mais enfin, ça nous mènerait trop loin. Il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet.
La motivation de la controverse venait de Dieu, quoi. Il me semble
c'est. Des passions. Oui, mais.
Il me semble c'est plutôt de l'esprit, si
et
c'est
non. Sur et non. Et voilà que ce que le Talmud nous dévoile. Il faut être lucide. Lorsque on est de bonne foi à la recherche d'une même vérité, qu'on a un texte de référence, alors pourquoi y a-t-il des différences d'opinion? Ou bien c'est un déploiement de richesse, de déploiement du sens, et il n'y a pas controverse. Il y a déploiement de richesse, de déploiement du sens, dans l'amitié. Okay. Ou bien il y a controverse, des opinions, chacun préfère opiner autrement. Alors il faut analyser d'où vient la motivation de la différence d'opinion. Il y a toujours une passion, et centralement l'orgueil. Est-ce que c'est clair? L'orgueil, c'est l'ego, c'est l'affirmation de soi. C'est ça l'orgueil.
Et ça vient de l'esprit?
Mais jamais de la vie. L'orgueil, ça vient des reins. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je pensais que c'était clair et évident, surtout après Descartes, le traité des passions. Les passions viennent des hormones. Non, l'espoir, c'est pas une passion. Mais ça peut être attaché. Ça peut être attaché. Par, disons le pessimisme, de façon plus générale. Lire une lecture pessimiste, c'est toujours possible. Mais alors, ça veut dire que c'est le lecteur qui est pessimiste, c'est pas le texte.
Mais le manque de passion, c'est pas un peu
à l'univers. J'attendais cette question. Mais on parle au début du cours du matin. La passion de la vérité, c'est la cesse de passion, c'est la privation des passions du corps. Des passions viennent du corps. Cet amalgame qu'il faut analyser. C'est pourquoi on préfère la vérité de la bouche des sages en âge. Parce que le temps des passions s'est calmé. Je pense que c'est clair. Et que la vraie passion spirituelle apparaît. C'est-à-dire la passion de la vérité sereine, simple, unanime pour tous, dans la paix, l'équité. Vous rappelez toutes les vertus qui. Top. Je crois que j'aurai à parler de cela dimanche après-midi un peu plus abondamment. Il n'y a plus de question là-dessus. Je crois qu'on a bouclé l'essentiel de ce premier texte et j'en suis assez satisfait. Alors on aborde les dernières lignes et nous allons essayer d'explorer un autre chapitre. Ubepek kesad me'avrin lo bashamayim hi velo me'aver layam. Et dans le traité de Hérouvin, page 55A, d'ailleurs il y avait déjà une allusion à cette référence plus haut, Lo bashamayim hi velo me'aver layam. Quand je vous ai parlé de cette référence à la Tshuva, et que c'est le même verset qui formule l'exhortation à la Tshuva, au repentir s'il y a eu déviation, s'il y a eu faute, et qui formule dans les mêmes mots, dans le même verset, l'exhortation à l'étude de la Torah. Le verset dit, car elle n'est pas au ciel, vous vous rappelez de cela? Elle n'est pas au ciel, ni non plus de l'autre côté de la mer. Le verset continue, de telle sorte que tu dises, c'est une tâche impossible, insurmontable, qui irait pour moi au ciel la chercher, qui irait au-delà des mers la chercher. Il y a donc deux expressions. Elle n'est pas au ciel et elle n'est pas au-delà de la mer. Je ne rappelle pas les détails que nous avons. C'était pas des détails que nous avons étudiés à ce propos. C'était avant-hier, je pense. Rabbi Yochanan enseigne. Ce même Rabbi Yochanan qu'on a cité hier soir, un peu peut-être trop sommairement. Alors, lo bashamayimhi, elle n'est pas au ciel. Cela veut dire lo timtza ota begaseruach. Nous l'avons déjà étudié. On ne la trouve pas chez les gens grossiers. C'est ça la grossièreté. Se croire en haut alors qu'on est en bas. Velo me'ever layam hi lo timtza besachlanim velo betagarim. Je ne me souviens plus exactement des mots français qui traduisent ces deux termes, Mais je crois qu'il s'agit des rochelim, c'est-à-dire, je crois, il s'agit des commerçants qui proposent leurs marchandises, vous allez m'aider à trouver le mot français, en allant eux-mêmes au-devant de la clientèle, qu'on appelle ça les colporteurs. Les colporteurs, Ken. Ou Pérouche et Nianze. Et l'explication de cela, qui, Bekama Mekomot, en plusieurs endroits, Bernou nous avons expliqué, que les trois niveaux d'être auxquels participe l'homme sont au nombre de trois. Je veux dire, les niveaux d'être auxquels participe l'homme sont au nombre de trois. Et Haechad, le premier, c'est l'intellect. Hacheni, le deuxième, c'est ce que j'appellerais la vie affective, le nefesh, la vie biologique, mais je nuancerai encore tout à l'heure à cause du troisième, la vie intérieure, le monde des passions, tout le monde de l'affectivité, de la sensibilité. C'est-à-dire, cette distinction est très claire et très classique. Il y a le monde de la représentation intellectuelle, et cette représentation intellectuelle n'est authentique que si elle est abstraite, dépouillée d'images. Bien que les images, encore une fois, aident beaucoup à accéder aux idées, mais l'idée est au-delà de l'image. Et tant que l'idée n'est pas au-delà de l'image, il y a idolâtrie de l'image dans l'idée. Je pense que c'est clair. Top. Et on ne se rend pas compte à quel point ce commandement, qui ne te fera pas d'image, est très important au niveau de la connaissance, et pas seulement au niveau de la représentation de la passion religieuse, entre guillemets. Verchele kashlishi ou agouf. Et le troisième niveau, c'est le corps, c'est-à-dire le corps animé, le corps vivant, la vie biologique fondamentale. Elushlosha hem be'adam. Or, l'homme les récapitule les trois. Verchele chele kaechad gover be'adam. Et lorsque une de ces trois forces prend le pas sur les autres, c'est-à-dire s'accroît, disons, trop, en sapek. Chez où, mais va-t-il croire à Cheni Beshlimuto ? Il n'y a aucun doute que cet homme perd d'une autre force dans son intégrité. Vous comprenez l'idée ? Il y a trois niveaux, disons la vie active, la vie affective, la vie intellectuelle. Si j'hypertrophie une des trois, il y a immanquablement une des deux autres ou les deux autres qui sont affaiblis. C'est bien clair. Et la Torah, il a sechel. La Torah, elle s'adresse à l'intellect. Ve'at tagarim shem avdim ve'shavim ve'shavim. Vous voyez la différence entre de l'intellect. Et ces colporteurs qui vont et viennent mibli manoach lahem, sans repos. Et c'est l'image du juif de l'exil. Okay? Le juif errant, on le voit toujours comme un colporteur. Okay? Et qu'est-ce qu'il vend? De quoi fait-il commerce? Alors, ils vont et viennent sans repos. Vem baale tnoa. Ils sont toujours en mouvement, agités, je dirais. Kemo she hu lachon socher. Ce qu'indique sémantiquement le terme de marchand, même en français. Vous voyez, ça marche. Ça marche trop. Ils font marcher les autres, mais en fait. Chez vous, Mesavev Tamid, qui tourne autour constamment. Ou que Moshe Katou, et comme c'est écrit, l'homme est vers la Yamhi, elle est pas au-delà de la mer. Et là, Hatagarim, Vasoharim, mais ces colporteurs, Mipene, Shehem, Ovrim, mais vers la Yam, par le fait qu'ils vont au-delà de la mer, des mers pour leur négoce. Veyadoua, qui a tenoua, cher Adam Holer, ou Messavev. Et il est connu que les mouvements que l'homme doit faire pour aller et contourner, hi, la nefesh, à Adam, à cher Mimena, tenoua, l'imtset, vient du nefesh, c'est nécessaire de traduire, la personne sensible. Et d'où procède et où se trouve la capacité de mouvement. Et lorsque cette modalité d'être du nefesh, asher mimena hatnoa, je crois que vous avez une faute d'orthographe, il manque un nun, okay? Et d'où procède le mouvement, gober, s'hypertrophie Ba'adam Olom, Davarze Mebatel Koach Hasheni. Ceci annule la force de l'autre fonction, les anciens disaient faculté, mais je préfère dire fonction, Ulchach Mebatel Koach Hasichli, et par conséquent cela annule la capacité d'intelligence, Ad She Ennim Tzaba Adam Beshlimut, jusqu'au point qu'elle ne se trouve pas en l'homme en intégrité. Ve'agava, or l'orgueil, ou mida gufanit. L'orgueil, c'est une modalité, une fonction qui vient du corps. C'est ce que je vous disais. Hein? Les passions viennent du corps. Chez Keshem, chez Haranava, car de même que l'humilité, mida sikhlit, est au contraire une vertu de l'intellect, comme nous l'avons éclairci précédemment, car agava, de même, l'orgueil, mida gashmit, est une dimension d'être, qualité sans que ça veut dire que c'est bien, corporelle, charnelle, ou comme sheu lashon, gas, ruach, ce qu'indique le terme de grossier d'esprit, chez Agassut Ve'avut, car la grossièreté et l'opacité, l'épaisseur, ou la Gashmi concerne le corporel, que Moshe Bernou, comme nous l'avons élucidé. Ulchar, et c'est pourquoi, car Cher Gover Ba'ada Midazot, lorsque s'hypertrophie en l'homme cette attitude, il s'agit de l'orgueil, Mevatelua Sirli, cela annule l'intelligence, et vais me voir, et cela est éclairci. Il y a dans le Talmud une autre piste de la même analyse, parallèle à l'orgueil, et c'est la colère. Lorsque, par exemple, nous avons des sources qui nous montrent que même un prophète, s'il se met en colère, la prophétie le quitte. Je crois que vous connaissez ce thème. Donc on pourrait explorer comme mida de préparation à, la, à l'accès à l'intelligence. Eh bien, comment pourrait-on dire en français, l'égalité d'esprit, mais cette fois par rapport à la colère. Vous vous souvenez de cet enseignement que vous avez sûrement étudié, que celui qui se met en colère ressemble à un idolâtre, est comparé à un idolâtre. Qui pourrait rappeler la signification de cela, parce que nous allons embrayer sur une référence assez parallèle, celui qui ment ressemble à un idolâtre. Alors, pour la colère, qui se souvient de ce que ça signifie? Ça nous aidera. C'est ça, mais c'est un détail que je vais plus loin.
Il y a son visage.
Si vous aviez, pardon, si vous avez cité le commencement de la citation, vous auriez la réponse.
Il y a le visage qui se change.
Quel rapport? En tout cas, je n'ai pas dans ma mémoire le souvenir de leur disque-là. Et quel rapport avec la colère? Vous donnez avec la colère, donc, donnez la réponse avant la question. Ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas la question probable.
C'est pas blasphémé.
Plus fort.
C'est pas blasphémé.
Vous répétez la question.
Mais un manque de confiance en
fait, le prophète, pour être la qualité du prophète, c'est être.
La
qualité du prophète. Et maître de ses prêtres. Il doit être maître, mais surtout de ses passions. Il doit être riche.
Maître, c'est de ses passions, mais c'est exact. Mais pourquoi elle devra mettre en évidence la colère parmi les passions?
Est-ce qu'il y a un rapport entre l'orgueil et la colère?
Ben, justement, c'est le même sujet.
Mais il se prend pour celui qui connaît la vérité. Il se prend pour celui qui connaît la vérité.
Et ça met en colère?
Il croit qu'il
a l'air d'en douter.
Il y a une autre citation de la loi qui dit Rof Chochma, Rof Kahas. Beaucoup de sagesse, beaucoup de colère. Tant qu'il n'y a pas toute la sagesse, il y a le risque de la colère. Donc s'il y a beaucoup, c'est rien. Vous vous rappelez qu'on a eu cette analyse déjà une minute. Okay? En quoi? C'est la question. En quoi? Nous sommes en train de faire un peu de logique. C'est pas un mal. Okay? Plus fort, j'en entends pas. La colère, ça devrait ressembler en quoi? Ça serait peut-être l'orgueil, c'est plus clair, mais même là, en quoi?
C'est le sérieux, comme pour la vérité.
Oui, tout ce que vous dites est vrai. Ça ne se rapporte pas à la question. Pardon. Mais pourquoi appeler ça idolâtrie? Ah. Pas de là-bas. Hein? Laquelle? Hein? Hein? Est-ce que ce ne serait pas l'orgueil? On parle de la colère. Très bien, ça, vous êtes sur le chemin. Les mots ne sont pas significatifs encore pour les autres, mais je vous ai deviné. D'imposer? Oui. Ah, rapport avec l'idolâtrie? Non, colère. Quittons pas le sujet. Comme on dit dans la méthodologie talmudique, en plein milieu d'une discussion, subitement un des rabbins dit « Bema askinan ». De quoi on s'occupe? On a oublié.
Parce que peut-être, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on montre le visage seulement du Yetzerara.
Pardon?
On ne montre plus que le visage côté Yetzerara, je dirais.
Oui, c'est vrai dans toutes les passions, pour qu'on parle à la colère.
Il a une action beaucoup plus impulsive, il espère que les autres vont regarder.
Beaucoup plus.
Très impulsive. Il espère qu'il y aura un regard par rapport aux autres.
Attendez, vous êtes en train de dire qu'il risque de s'instaurer en idole, ok? Bon, mais en quoi la colère est significative de cela plus qu'une autre passion du Yetzer Hara? Par exemple, l'orgueil, pour l'orgueil, on a analysé ça pendant une semaine, le matin, c'est un peu clair, non? Hein? Ah, voilà, vous êtes déjà sur le chemin, tous les deux. Alors, exploitez cela. Répétez ce que vous avez dit, exploitez-le. C'est-à-dire, si on n'était pas retenu, ça irait jusqu'à l'assassinat. En quoi c'est l'idolâtrie? Tu ne pas, tu ne tueras pas l'idolâtrie, c'est autre chose.
C'est une image de Dieu qu'il y a dans l'autre.
Pardon?
C'est une image de Dieu qu'il y a dans l'autre.
Oui, c'est mal dit, mais c'est ça. Alors, exploiter aussi. Et en quoi ça
veut dire... C'est retourner à l'état de nature.
Ah, quelque chose à la fois. C'est l'idolâtrie, ça veut dire à la fois. En quoi ça, c'est l'idolâtrie?
Peut-être c'est se mettre à la place de Dieu pour juger quelqu'un.
C'est... Vous voyez, dans la colère, on juge, ça empêche la volonté du jugement. Pardon? En quoi? C'est exact. En quoi?
On se prend pour Dieu.
Non, on revient à l'orgueil. Bon, je vous donne la réponse. Vous avez frôlé tous tout ça. C'est comme si celui qui m'a créé, c'est pas celui qui l'a créé. Il y en a combien? Vous y êtes? Ça veut dire, c'est le comportement simple de la colère en tant que c'est l'assassinat. C'est là que vous étiez sur le crime. Okay? Non, l'assassinat. Sur le chemin, qui est idolâtrie. Ça veut dire, je me comporte comme si il y avait un postulat que celui qui l'a créé, c'est pas celui qui m'a créé, et que j'ai pas peur. Okay? Mon Dieu est plus fort que le sien. C'est de l'idolâtrie, ça. Ça, c'est clair. Vous y êtes? Non. Rappelez-vous le commandement d'amour, « Ve'apta le'acha kamocha ni Hashem ». Ça veut dire, moi qui suis ton Dieu, je suis le sien. C'est de ça qu'il faut avoir peur. Okay? Alors, et koes keilu obed avodazara. Bien.
C'est ça qui transforme la prophétie, la colère de Moïse, quand il est sorti voir le cadavre.
Et le texte n'est pas qu'une colère.
La colère brise.
C'est vous qui interprétez.
Il n'est pas
tout. Il y a même la colère, mais il n'est pas là.
Il n'était pas tout.
Il n'était pas. Non, c'est autre chose. Il sait, comment dire. Précipité, quand il faire vite, il s'est empressé à briser l'étable pour sauver le peuple. Tant que l'étable était là, puisqu'il avait décrit dessus, le peuple était condamné. Alors dès qu'il a vu cela, il a brisé l'étable pour sauver le peuple. Est-ce que c'est clair? Oui, il faut faire attention de ne pas projeter des interprétations. Okay.
Le cas auquel vous faisiez allusion, ce n'est pas au moment du Moïse a frappé le rocher.
Oui, c'est très bien. Et il y a une expression qui montre que. Alors, ça, c'est l'interprétation de Maïmonide, elle est contestée par les kabbalistes. Okay? Et il a frappé le rocher en disant quoi? Rappelez-vous l'expression? Qu'est-ce qu'il dit au. à ceux qui demandaient de l'eau. Shimona Hamorim, écoutez, rebelle. Est-ce que de ce rocher, je vais vous faire sortir de l'eau? Il y a beaucoup de sens là. Ça nous prend trop de temps. Et il a frappé le rocher, pas parce qu'il était en colère, parce que la première fois, Dieu lui avait dit « frappe le rocher pour donner de l'eau ». C'est clair ? En réalité, le Midrash dit « chaque fois qu'il y a une faute, Moïse plaide pour le peuple ». Là, il ne plaide pas, il condamne. Il les traite de rebelles. Alors Dieu lui dit « tu ne peux plus être leur chef ». C'est plus toi qui les amènera en Israël, en Eretz Israël. Il faut voir le contexte. Et c'est là que est décidé le fait que Moïse passe le pouvoir à Josué. Ça veut dire, un chef qui ne peut pas plaider pour son peuple, eh bien, c'est qu'il est trop haut, il n'est plus compatible, je cherche un mot, il n'est plus fonctionnel, je sais pas, vous comprenez ? Apte, okay. Il est trop haut. Effectivement, depuis le temps de la sortie d'Égypte, on voit ce peuple qui sort au niveau de Moïse, de la sortie d'Égypte. Moïse monte de niveau et le peuple descend. Alors à un certain moment, le hiatus est tel que Dieu lui dit « tu ne peux plus le conduire ». C'est clair ? C'est clair ? Vous comprenez cela ? Ça ne disqualifie pas Moïse, ni le peuple, il y a des raisons pour cela. Mais ça donne un principe très important, c'est que lorsque un chef ne peut pas plaider, encore une fois, pour son troupeau, disons berger, eh bien c'est qu'il n'est plus le berger de ce troupeau, parce que ce troupeau n'est plus le sien. Mais alors, Dieu lui dit, il ne faut pas que toi et moi, on soit fâchés avec eux, envoie Josué. Est-ce que c'est clair ? Et il y a un chidouche sur Shimona Morim. Morim, ici, ça veut dire les rebelles, mais ça veut dire aussi les professeurs, ceux qui enseignent, Morim. C'est enseigné à propos du Ben Sorer ou Moré. Je referme la parenthèse, ça me prend trop de temps. Oui, une dernière question.
Donc, finalement, est-ce que la colère sublimée, c'est l'amour du prochain ?
Explique plus, je comprends pas ce que veut dire la colère sublimée. Si on maîtrise la colère, ça dévoile l'amour du prochain. Oui, ça se dévoile. Mais nous étions partis du sujet que ça supprime la capacité de prophétie, donc la capacité de connaissance de la vérité vraie. Okay. Vous en aviez ça pour l'orgueil, on nous le dit aussi pour la colère, on nous le dit pour le mensonge, avec le texte qu'on analyse. Que celui qui ment, voilà dans quelle forme c'est dit mentir, et comme s'il était idolâtre.
Mais c'était la colère contre quelqu'un. Et quand on se met en colère...
Contre soi-même.
Contre les événements, contre sa situation, même contre un objet, alors en quoi là...
C'est de la colère contre Dieu. C'est évident.
Et c'est appris de la...
Oui, ça veut dire, celui qui a créé cet objet contre lequel je suis en colère, et celui qui m'a créé, c'est pas le même, parce que moi je suis pas d'accord avec cet objet. Alors c'est pire, moi, je crois que c'est le fond de la définition. C'est pourquoi le suicide est interdit. Je me rappelle quelqu'un qui avait des soucis très pieux, mais des soucis. Il m'avait dit un jour, si c'était pas écrit que le suicide c'était interdit, je me serais suicidé. Je lui montre où c'est écrit. Ça l'a rassuré. attendez, nous ne nous échappons pas. Ken. Attendez, je crois que...
Entre les êtres ignorants...
Attendez, je voudrais ajouter sur la phrase. Il y a une sainte colère. Ah. Il y a une sainte colère, et c'est un commandement. Rizou, vers le Seigneur. Et Drogues, contre le mal. Et si maintenant... Pardon ?
Contre les nazis, il y a de quoi se mettre en colère.
Oui. Si on n'est pas... la Torah n'aime pas les consciences tièdes. Si on n'est pas en véhémence, on ne peut pas être moral. C'est pas de la colère, c'est ce que j'appelle la sainte colère. Et c'est cette colère où il n'y a pas de faute.
Amalek.
Par exemple.
Je crois lors du premier cours, vous avez enseigné que le prophète n'introduisait pas son équation personnelle dans la prophétie.
Le vrai prophète.
Le fait de se mettre en colère, est-ce que ce n'est pas introduire...
C'est très bien, ça peut expliquer comme ça.
Quel est le critère pour juger
une question à la fois. Si déjà vous avez... C'est pas contradictoire avec ce que nous avons appris. Continuez.
Et comment en fait est-ce qu'un prophète peut véritablement se détacher de son équation, de son éducation, de sa...
Mais c'est quand il s'est détaché qu'il est prophète. Ça me rappelle une histoire, mais réfléchissez. Je crois que je vais la raconter, mais elle me plaît beaucoup cette anecdote. C'était il y a une vingtaine d'années en Israël, il y avait une enquête dans la radio sur les ménages israéliens, avec une caractéristique, le nombre de livres qu'il y a dans les salles de séjour. C'est frappant, on passe devant les fenêtres et on voit tous ces livres. Alors le Karian, le reporter, qui n'était pas religieux, était rentré dans une maison religieuse, c'était plein de grands livres, Shulchan Aruch, Talmud, Yoredea, tout ce que vous voulez. Alors il a voulu faire une astuce, il dit, tu crois que quand tu auras lu ça, tu deviendras Hacham? Alors le sens démonté, le Baal HaBayit lui a répondu, mais Habibi, il faut d'abord être Hacham pour lire ça. Vous comprenez, c'est la même chose. Il a fait. Ah, j'ai pas dit. Tu vois, j'ai cru que tu citais exactement comme d'habitude. La première partie est exacte. On doit haïr les actes et ne pas haïr l'homme. Bon. Mais alors, si c'est un prochain, il y a un commandement de l'aimer. D'autre part, et c'est dur, si c'est un prochain. On haït les actes. Mais on ne doit pas haïr l'homme. Parce que haïr l'homme, c'est... haïr une créature du créateur unique. Regardez à quelle hauteur est cette morale. Sauf quand nous savons par un verset qu'il s'agit d'une manière d'être homme que Dieu haït. Ahavti et Yaakov et Esav Saneti. Malachi, chapitre 1er. Bien. Alors écoutez, je crois que ça va pour le premier texte et vos questions. Alors on va prendre 5 minutes de Hapsaka, hein, et on se retrouve pour le deuxième texte, j'espère sans interruption, mais avec étude, bien entendu, réciproque. A tout de suite. Alors... L'ambition, parce que au fond, une des motivations de cet orgueil dont il est parlé ici, c'est évidemment la passion de l'ambition. Alors, du point de vue de la sublimation des tendances, comme on dit, mettre son ambition personnelle au service de la collectivité, c'est par là qu'on arrive à la Torah. Nous l'avons étudié à propos de Moïse, Ken. Et vous verrez vous-même par expérience qu'il est finalement assez facile de diagnostiquer dans les attitudes, dans le style, dans l'expression, s'il y a ambition personnelle qui se mêle à l'ambition de la Torah, parce que tout est toujours mêlé dans le comportement ambigu des hommes, ou bien si c'est vraiment la passion d'être au service de la Torah, cette ambition-là, et même celle-là parfois peut-être négative dans la forme qu'elle prend, s'il s'agit au fond de... en fin de compte, malgré tout, de se servir du service de la Torah pour une volonté de puissance personnelle. Vous voyez que les pièges sont nombreux dans ce problème. Référez-vous à la Mishnah que j'ai étudiée tout à l'heure avec le Rav Nachman de Breslav et le silence des passions dont j'ai parlé, qui est indispensable à la clarté de l'honnêteté de... d'être porte-parole de la Torah, ce n'est pas pour rien, encore une fois, que le Maharal a cité toutes ces références de la Gemara qui nous donne Moïse comme modèle. Et le verset disant, il s'agit de Hanava. Et effectivement, comme vous le savez, Moïse a été en butte à des calomnies du type ambition personnelle. Vous vous rappelez Korah, par exemple. Et c'est là que je vous avais cité cela au cours, qu'il dit « Venachnouma ». Nous ne sommes que ma. Enfin, le rabbin Wachin a utilisé le koachma dans un tout autre sens qu'il a utilisé. Mais la source que je vous cite, c'est une source écrite. Donc, bien, en tout cas, je reviens au, à notre chapitre. Alors, nous allons commencer la lecture, comme d'habitude. Voilà, Beperek Chelek, c'est le 11e chapitre du traité de Sanhedrin. C'est donc à la page 92A. Amar Rabbi Eliezer, Kol HaMachlif BeDiburo, tout celui qui change sa parole. Nous allons prendre le cas de la promesse. Celui qui a fait une promesse et puis ne tient pas compte de ce qu'il a dit exactement. Ou celui qui a dit une fois quelque chose et puis ensuite change ce qu'il a dit. Et ça peut avoir des implications graves, en particulier lorsqu'il y a un cas de témoignage. On a cité quelqu'un, et puis lorsque ce quelqu'un vient témoigner, il dit autre chose, par exemple. Okay. Alors, Kol HaMachlif et Diburo, Keilu Oved Avodah Zara. Et comme si il était, nous allons traduire simplement, idolâtre, au service d'un service étranger, à la limite d'une divinité étrangère. Il est écrit d'un côté, je serai à ses yeux comme un trompeur. Il s'agit de ce que Jacob a dit à Rivka lorsque Rivka lui a demandé de se substituer à Esaü et de dire que c'était Esaü qui était là. Si c'est nécessaire, nous reprendrons le texte en détail immédiatement. Urtivatam, il est écrit d'autre part, Hevel, Hema, ils sont vanité, Maase Tartuim, ils sont œuvres de tromperie, et il s'agit des idoles. Hakam, jusque-là, la citation que le Maral va expliquer. Hadavarazé ou Davar Nifla, ce qui vient d'être dit là est une chose extraordinaire. Kuvarid Baer Lecha Lemala, il a été déjà éclairci. Précédemment, qui kach yesh lefaresh, que c'est ainsi qu'il faut expliquer, ma chère Mourazal, ce qu'ont enseigné nos maîtres, be Shabbat, dans le traité de Shabbat, be perek babe mehema yotzet, ou be Yoma, dans un chapitre particulier, et dans le traité de Yoma, qui traite du jour de Kippour, be perek, dans un chapitre particulier, ou be Sanhedrin, et aussi dans le traité de Sanhedrin, lorsqu'on a dit hotamo, chez la Kadosh Baruch Hu, Emet. Le sceau de Dieu, c'est le mot de vérité. Nous allons d'ailleurs revenir sur cette citation qui vous a été faite trois fois, finalement, si je comprends bien, par moi-même, par le Dr. Prince et par le Rabbi Wakin hier soir, dans la table ronde de demain après-midi. Je vous avoue que je n'ai pas tellement compris cette indication que dans la vérité, il y a la mort. Vous vous rappelez de cela? Alors que la manière dont nous avons présenté cette référence était exactement le contraire. Enfin, on y reviendra dimanche après-midi. C'est rien ? Oui, il a dit le contraire, mais moi aussi, j'ai dit le contraire. Et je ne sais pas. Expliquez-moi plus.
Je serais incapable de vous l'expliquer parce que j'ai pas eu le temps de réécouter sa cassette pour garder le cours de la semaine dernière, mais vraiment il a bien insisté sur la vidéo de
bon,
de profanation, ce qui est en train de dire qu'en aucun cas la mort était acceptable.
Non, c'est pas de ça que je parle. Que dans le mot de vérité, il y a le mot mort, alors que dans la controverse, ça fait éclater la mort, etc. Bon. Expliquera lui-même, tout simplement.
Oui. Oui.
Oui. Écoutez, ça peut se justifier de différentes manières. C'est-à-dire, il y a, à mon sens, le risque de l'autoritarisme d'une vérité qui s'impose, c'est la pire des catastrophes, c'est la pensée totalitaire, c'est la... ça fait pas de doute. Mais voir cela dans le fait que le mot de mort soit dans le mot de Emet, alors ce que l'on nous enseigne est exactement l'inverse. Si on enlève de la vérité, il reste la mort. Je veux dire, c'est le contraire. Oui. Bon, et ça, il s'en expliquera lui-même. Oui, vous avez compris? Voilà. Donc, je reprends donc l'expression « Rotmo Shalakadosh Baruch Hu Emet ». Le sceau, j'avais dit la trace que Dieu laisse dans le monde en se cachant, sa carte d'identité d'incognito, si vous voulez, c'est la vérité.